Bien, nous allons donc cet après-midi commencer à essayer d'examiner, de comprendre un peu ce qui s'est passé pendant ces grandes journées, la nuit du jeudi saint, le vendredi, samedi, dimanche. Ce sont les moments les plus cruciaux, les plus importants de l'histoire des hommes. Et je ne prétends pas, je dirais, tout vous expliquer, ni tout vous faire comprendre, parce que ce sont des moments qui sont incompréhensibles. Ces moments qui... Il faudrait être Dieu pour en parler comme il convient, parce que c'est lui qui les a vécus, dans son humanité, c'est notre Seigneur qui les a vécus, et il y a une foule de choses qui sont incompréhensibles, que l'on peut essayer un petit peu de deviner, mais on ne peut guère que balbutier dans ces choses-là. Ça, c'est tellement immense. Donc je ne prétends bien que vous donner peut-être des pistes un petit peu de réflexion, de méditation, de contemplation, de prière même, pourquoi pas, bien sûr. Il est sûr que ce sont là peut-être les heures, les journées qui nous manifestent le plus, justement, cet amour que Dieu nous porte à chacun d'entre nous. Et ce sont donc des choses qu'il faut que chacun d'entre nous considérions. C'est à moi que ça parle, ça. C'est à moi, c'est pour moi, c'est à cause de moi. Tout ça, c'est moi qui suis compromis, si on peut dire, d'une certaine façon, dans ces moments, dans ces événements de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, je ne prétends pas tout vous rendre clair. Tout cela reste un mystère. Je ne sais pas si vous connaissez la bienheureuse Angèle de Foligno, qui a eu des visions, une mystique franciscaine du XIIIe siècle et qui a des choses magnifiques justement sur ces heures, sur la passion de notre Seigneur. C'est terrible, enfin. Et voici un petit peu un passage où elle essaie un petit peu d'expliquer ce qu'elle a vu. Dans cette lumière, mon âme vit de la passion du Christ plus de choses que je ne puis et même que je ne veux en déclarer. J'ai fait certaines découvertes pour lesquelles je demande la permission de me taire. Elle a découvert certaines choses, elle dit, je préfère ne pas en parler. Bon. Des choses qu'on ne peut pas dire, c'est sûr, des choses que l'on comprend intérieurement, mais qu'on ne peut pas exprimer. Oui. Et alors mon âme cria, ô Mère désolée, Sainte Marie, dites-moi quelque chose de la passion du Fils, car vous en avez vu plus que tout autre saint à cause de votre grand amour. C'est très juste. Vous en avez vu plus que tout autre saint à cause de votre grand amour. C'est l'amour que chacun d'entre nous porte à Jésus-Christ qui lui fera comprendre ce qui se passe, qui l'instruira finalement un petit peu sur ce qui s'est passé pendant la Passion. Vous l'avez vu avec les yeux du corps et avec ceux de l'âme. Vous avez beaucoup vu parce que vous avez beaucoup aimé. Et mon âme redoubla ses cris. Il y a encore un autre saint qui pourrait me dire un mot de la passion. Et je criais dans mon délire. Tout ce qu'on dit de cette passion, tout ce qu'on raconte, tout cela n'est rien près de ce qu'a vu mon âme. Et je ne peux pas beaucoup plus que les autres la dire comme je l'ai vue. J'ai vu dans ma vision trois fois épouvantable que la mère des douleurs, bien qu'elle ait plongé dans la passion plus à fond que tout autre saint, plus à fond que le disciple aimé, j'ai vu de mille manières qu'elle est incapable de raconter la chose comme elle l'est. Le disciple bien-aimé en est incapable aussi. Et si quelqu'un me racontait la passion telle qu'elle fut, je lui répondrais, c'est toi qui l'as soufferte. Voilà, il n'y en a qu'un qui peut vous raconter la passion telle qu'elle s'est passée réellement. C'est lui. Alors, bon, bien mettons-nous un petit peu quand même à sa suite pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, de pénétrer un peu dans les secrets de ces douleurs immenses, ces douleurs de l'agonie. Mais ne vous faites pas d'illusions, encore une fois, c'est vouloir pénétrer un peu les secrets de l'amour, les secrets de la charité, les secrets de Dieu, et ça, c'est l'infini, ça. C'est l'infini, c'est l'incompréhensible, c'est l'inexprimable, si vous voulez. Dieu, nous ne le comprendrons jamais. Eh bien, de même, ces douleurs de la passion, nous ne les comprendrons jamais totalement. Alors, ne vous désolez pas, si tout cela vous paraît comme encore mystérieux, ça restera toujours un mystère, ça c'est sûr. Et surtout, cette agonie, ce que nous allons examiner cet après-midi, c'est un mystère. Et c'est peut-être, à la limite, le mystère le plus mystérieux Et comment cet homme, Dieu, comment le Verbe incarné a-t-il pu connaître ses souffrances intérieures, souffrances intimes, souffrances spirituelles? Comment est-ce possible? Alors qu'il est pur, alors qu'il est innocent, alors qu'il est Dieu, alors qu'il est sans péché. Pourquoi? Comment? Oui. Toute cette souffrance, c'est sûr qu'il y a un mystère. On peut comprendre quelques petites choses, mais c'est tellement inouï, tellement injuste à la limite. C'est inconcevable. Il est Dieu. Comment Dieu peut-il souffrir? Mais alors nous comprenons peut-être les souffrances physiques. Ça encore, bon, ça va bien. On comprend un petit peu ce que c'est. La flagellation, le couronnement, la crucifixion, tout ça. Bon, ça va bien. Ça nous parle tout cela très bien. Mais là, dans l'agonie, hein, et c'est cela qui est très mystérieux, il ne s'agit pas de souffrance physique. Il ne souffre pas physiquement, il n'y a rien. Il n'y a pas de coups, il n'y a pas de blessures, etc. C'est simplement des souffrances intérieures. Et pourtant, ce sont les plus grandes souffrances qu'il ait connues. Notre Seigneur n'a jamais autant souffert que dans son agonie. C'est lui-même qui l'a dit à Sainte Marguerite Marie. Hein. Il a dit, en gros, je vous le dirai peut-être tout à l'heure, en gros, que c'est là, c'est à cet endroit-là, eh bien, qu'il a connu sa plus grande souffrance intérieure. Ouais. Et les souffrances extérieures, physiques, qu'il connaîtra ensuite dans la Passion, mais ne sont rien comparées à cette douleur, cette souffrance, ouais, qu'il va connaître ici dans son agonie. Alors, bien sûr, face à toutes ces souffrances, toute cette douleur, ouais, et à l'injustice même, sans doute, hein, de cette douleur, nous pouvons nous demander, mais enfin, est-ce que vraiment c'était nécessaire? Est-ce que vraiment, pourquoi oui, toute cette souffrance, oui, pourquoi Jésus-Christ, pourquoi Dieu a-t-il voulu que son Fils souffrit de cette façon, oui? Est-ce qu'il ne pouvait pas racheter le monde? Est-ce qu'il ne pouvait pas nous sauver d'une autre façon? Bien sûr que oui, bien sûr. Il aurait pu, ça c'est clair, hein. Dieu, ça, sa puissance est sans limite, il aurait très bien pu trouver une autre façon de nous racheter, de nous sauver, mais n'oubliez pas, quelles sont les raisons d'être de l'incarnation, hein. Pourquoi Jésus-Christ, pourquoi le Verbe de Dieu s'est-il incarné, hein, nous l'avons déjà dit, mais je pense que nous pouvons le répéter, hein. Il y a trois motifs essentiels. Le premier motif, c'est de nous enseigner. C'est de nous instruire, de nous faire comprendre un certain nombre de choses, que nous sachions un certain nombre de choses, oui, sur Dieu, bien sûr, et sur nous-mêmes. Le deuxième motif, c'est de nous délivrer du péché. Et le troisième motif, eh bien, c'est de nous conduire à Dieu le Père, hein, de nous ramener donc à notre Père. Oui. Donc d'abord nous enseigner, nous illuminer, nous faire comprendre. Ensuite nous sortir du péché, nous délivrer de notre misère, du péché. Et ensuite nous conduire à Dieu, nous conduire à l'éternité, à la gloire de Dieu. Eh bien, n'oublions pas la première de finalité de cette incarnation et que nous retrouvons ici, justement, c'est cette nécessité de nous instruire. Et saint Thomas d'Aquin nous dit justement, vous voyez, il énumère ici un certain nombre de motifs qui justifient cette façon dont Dieu nous a rachetés, a voulu nous racheter comme étant le moyen le plus adapté, oui. Bien, c'est à cause de tous les profits, tous les nombreux profits pour notre salut. Tout d'abord, et c'est vrai, c'est là, je pense que c'est facile à comprendre, hein, par la Passion du Christ, l'homme a connu combien Dieu l'aimait. Qu'est-ce que vous voulez trouver de plus révélateur, hein, de plus vrai, hein, quant à la manifestation d'un amour, hein. C'est pas tout de dire « je vous aime ». Là, Jésus-Christ ne dit rien, et il montre, il manifeste l'amour qu'il a pour nous en acceptant justement cette mort, cette souffrance, de cette façon-là. Et tout ça pour qui? Pour moi. Voilà. Alors si avec ça, nous arrivons encore à douter de l'amour que Dieu a pour nous, mais je ne comprends plus, moi. Aïe, ça ne marche plus. On ne peut plus douter, c'est clair, ça. Oui, l'homme a connu combien Dieu l'aimait, et il fut ainsi provoqué à aimer Dieu en retour. Voilà. Donc nous comprenons que Dieu nous aime et ça nous incite à l'aimer en retour. Il dit, bon, c'est clair, puisque je suis tellement aimé, mais voilà, il faut que moi aussi je réponde quand même, d'une certaine façon. Et cela est nécessaire seulement pour notre salut. Le salut, bien, c'est l'amour que nous avons pour Dieu. Si nous n'aimons pas Dieu, notre salut est compromis. Et bien, pour nous exciter à cet amour, bien voilà, Dieu nous manifeste l'amour qu'il a pour nous de cette façon-là. C'est ce que saint Paul a écrit aux Romains. Dieu a manifesté, a clamé son amour pour nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, le Christ est mort pour nous. Voilà. Alors que nous étions encore pécheurs, donc misérables, eh bien, c'est dans cet état-là que Dieu nous a pris et qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour nous. Ensuite, oui, donc, pendant, continuons, si vous voulez, dans cet enseignement que nous donne Dieu dans cette passion, bien sûr, vous voyez, saint Thomas insiste, et c'est vrai, il a tout à fait raison, bien sûr, hein, il insiste sur cette proclamation, si l'on peut dire, cette manifestation de l'amour qu'il nous porte. Mais il ne faut pas oublier que, bon, s'il nous manifeste aussi l'amour, eh bien, cette passion, et cette passion aussi cruelle, aussi douloureuse, nous manifeste autre chose aussi en Dieu, une autre qualité de Dieu, une autre vertu de Dieu qui est corrélative à son amour, c'est sa justice. C'est ce que dit saint Paul aussi aux Romains, dans l'Épître aux Romains. C'est Jésus-Christ que Dieu a établi pour être la victime de propitiation par la foi en son sang pour la manifestation de sa justice. Vous voyez, quand nous considérons bien ce que Jésus-Christ a accepté de souffrir, nous comprenons peut-être ce qu'est la justice de Dieu. Nous comprenons justement à quel point nous l'avons offensé, vous voyez, pour réclamer une réparation semblable, une réparation aussi épouvantable, si l'on peut dire, c'est que vraiment l'offense était terrible. Et cela nous manifeste un peu justement la grandeur de la justice, la sévérité même de la justice de Dieu, mais qui manifeste de notre côté la grandeur et la gravité de nos fautes. Vous voyez, insulter un Dieu aussi bon, c'est non. Si nous ne comprenons pas la gravité de nos péchés, eh bien regardons la passion, voilà la gravité de nos fautes. C'est pas des considérations intellectuelles qu'il faut faire. Il faut regarder un homme qui souffre et un homme qui est Dieu. Voilà, à cause de nous, à cause de nos péchés. Oui, donc la passion, bien, nous instruit sans doute sur ces deux vertus qui sont en Dieu et qui sont corrélatives. L'amour, bien sûr, et puis la justice. On ne peut jamais séparer l'un de l'autre. Une charité qui serait privée de justice serait faiblesse, c'est clair. Une justice qui serait sans charité serait beaucoup dureté, tout ce qu'on peut imaginer, mais ne serait pas la vraie justice, elle serait injuste au contraire. Donc c'est la première raison pour laquelle Dieu a choisi ce mode de rachat, de réparation. Ouais. Et deuxième raison que nous donne saint Thomas, par la passion, le Christ nous a aussi donné un exemple d'obéissance, d'humilité, de constance, de justice et des autres vertus qui sont nécessaires au salut de l'homme. Et saint Pierre le souligne en disant « Le Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle afin que vous suiviez ses traces. » Vous voyez, l'exemple de toutes les vertus dans la passion. Et dans un autre passage, là, saint Thomas d'Aquin explicite un peu plus, hein, il commente ce passage de saint Paul, où saint Paul nous invite à recogiter, vous voyez, à penser sans arrêt justement à ce que notre Seigneur a fait. Et pourquoi, dit-il, eh bien parce que, là c'est une chose qui, petite pensée de saint Thomas d'Aquin que nous pouvons noter peut-être, voyez. La raison en est que dans toute tribulation, on trouve son remède dans la croix. Mettez ça dans votre tête, n'essayez pas encore. Voyez. Dans toute tribulation, eh bien, vous trouverez le remède à la croix, dans la croix. C'est là qu'est le remède à toutes vos tribulations, à toutes nos tribulations, nos souffrances, nos difficultés, nos angoisses, tout ça, le remède, la croix. Bon. Ici, en effet, nous voyons, voilà, il énumère un certain nombre de vertus de notre Seigneur manifestées donc dans la croix. Ici, nous voyons l'obéissance envers Dieu, bien sûr. L'obéissance. Nous voyons également la piété envers les parents. Notre Seigneur prend soin de sa mère. Il ne l'abandonne pas. Avant de mourir, il la confie à saint Jean. Nous voyons la charité envers le prochain. Il prie pour les pécheurs. Pardonnez-leur. Nous voyons la patience dans les adversités. Et en toute chose, eh bien, nous voyons la persévérance finale, car il a persévéré jusqu'à la mort. Sans un moment de faiblesse. Voilà, tout un ensemble de vertus qui nous sont manifestés et avec éclat dans la passion de notre Seigneur, l'obéissance, la piété filiale, la charité envers le prochain, la patience et la persévérance, oui, donc la force, oui, dans les adversités. Et donc dans la croix, nous trouvons l'exemple de toutes les vertus selon saint Augustin, oui, très belle citation de saint Augustin. La croix fut non seulement le gibet de celui qui souffrait, mais aussi la chair du docteur. Voilà. La croix est un gibet, bien sûr, c'est là qu'il souffre, c'est là qu'il nous rachète, mais c'est également la chair dans laquelle il proclame la vérité. Il continue de prêcher sur la chair, sur la croix, pardon. Oui. Oui, donc deuxième raison pour laquelle ce genre de passion était, bon, non pas strictement nécessaire, mais en tout cas tout à fait adapté à sa finalité. Oui. Donc, nous manifester l'amour, la justice de Dieu, nous donner l'exemple d'un certain nombre de vertus, l'obéissance, l'humilité, la patience, etc. Ensuite, troisièmement, le Christ, par sa passion, a non seulement libéré l'homme du péché, mais en plus, il lui a mérité la grâce de la justification et la gloire de la béatitude. Il a mérité, bon, alors ça c'est... Nous passerons un peu là-dessus. Il a mérité par la charité intérieure, justement, et l'esprit d'obéissance dans lequel il a vécu cette passion. Quatrième motif, l'homme se sent également poussé par nécessité à se garder pur de tout péché. Et oui, quand on voit dire ce que nous avons coûté à Dieu, ce que nous avons coûté à Jésus-Christ, bien cela, justement, doit nous aider à nous garder pur de tout péché. Si on peut dire, diminuer un peu le prix de la rançon. Qu'il est moins à souffrir, si c'est possible. Vous voyez, se garder pur de tout péché, suivant le mot de saint Paul aux Corinthiens, vous avez été racheté assez cher. Glorifiez donc Dieu en votre corps. Hein? Bon, il a payé assez cher, si vous voulez. Donc, n'augmentez pas la dette encore. Hein? Et enfin, c'est un motif aussi qu'il ne faut pas oublier. Aujourd'hui, dans notre époque de culte un peu de l'homme, c'est une chose à laquelle on est peut-être un peu trop habitué, mais qui n'est pas complètement fausse, vous voyez. Par cela, donc, l'homme a atteint une plus haute dignité. Et oui, c'est une dignité. Notre Seigneur a élevé l'homme à une plus grande dignité encore par ce type de passion, de rachat, de rédemption. Vous voyez. Parce que l'homme avait été vaincu et trompé par le diable, eh bien, l'homme devait le vaincre à son tour. Vous voyez. C'est un homme qui triomphe du démon. Et l'homme qui a été vaincu par le démon, eh bien voici que notre Seigneur, par sa passion, en triomphant du démon, voyez bien, élève la nature humaine à une plus grande dignité. Ayant mérité la mort, l'homme devait aussi, en mourant, l'emporter sur la mort. Ouais. Voilà. L'homme avait mérité la mort, et bien par la mort de Jésus-Christ, la mort est vaincue. Voyez. Donc la nature humaine, l'homme, est élevé à un niveau de dignité, eh bien plus supérieur à celui qui était antérieur à la passion. Ouais. C'est extraordinaire tout cela. Hein. Bon. Voilà, et donc, eh bien, c'est pourquoi on peut justement considérer que ce mode de rédemption était tout à fait convenable. Bien sûr, encore une fois, Dieu aurait pu en choisir un autre, mais celui-là est tout à fait adapté, eh bien, à ce que nous sommes et à ce que nous devons devenir, justement, cette gloire qui nous est destinée. Bon, nous pourrions encore, mais ce serait peut-être un peu long, on peut faire simplement une petite rapide énumération, mais là aussi, il faudrait y passer des heures et des heures et des journées. Oui. C'est une question que se pose aussi saint Thomas d'Aquin, vous voyez, c'est la somme des souffrances que Jésus-Christ a endurées. C'est incalculable, si vous voulez faire. Alors, on peut faire une certaine énumération, c'est sûr, mais... Oui, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Notre Seigneur a enduré toute la souffrance humaine, toutes les souffrances humaines possibles, imaginez, toutes, il les a connues. De la part des hommes, déjà, oui, si on considère les différentes catégories d'hommes, il a souffert de la part des hommes et des femmes, des deux. Bon. Des juifs et des païens. Il a souffert de la part des prêtres et des laïcs. De l'autorité et du peuple. Il a souffert de la part de gens honnêtes et de la part de gens malhonnêtes. Des enfants même, et des vieillards. Ses amis, et ses ennemis. Oui. Donc, pour prendre toutes les catégories d'êtres humains, tous l'ont fait souffrir, tous. Il n'y en a pas un qui l'a épargné. Et même nous. Hein. Bon. Oui. Donc, de la part des hommes, ça, quel que soit l'homme que vous considériez, vous pouvez dire, nous pouvons dire, il l'a fait souffrir. Ensuite, eh bien, dans ses facultés humaines, dans les facultés, dans son cœur, si vous voulez, un petit peu tout ce qui est peut-être de plus intime à l'homme, je montre toutes ses affections, eh bien, ses amitiés, tous ses amis, tous l'abandonnent, même les préférés, etc. Tout le monde s'enfuit. À un moment ou un autre, tous flanchent. Sa parenté, bon, dans son honneur, bien sûr, il est bafoué dans son honneur, dans sa renommée, sa réputation. Tous ses biens même, alors qu'il n'avait rien, mais le peu qui lui restait encore, sa tunique, elle est tirée au sort, rien. Son corps, bien sûr, ça c'est clair, hein. Et son âme elle-même, et son âme. Son âme, et c'est cela que nous considérons cet après-midi, son âme qui est broyée justement par la détresse, ouais, cette détresse intérieure de l'âme de notre Seigneur, c'est terrible ça, c'est bouleversant. Hein. Ce désarroi intérieur de Jésus-Christ, détresse vraiment, très très profonde, le dégoût. Dans l'âme du Christ, ouais. La tristesse, la solitude. Et puis, cette science de la douleur, ouais, cette connaissance intérieure, intime de la douleur, avec cette sensibilité, cette acuité, si vous voulez, de sa perfection humaine. Ouais. Ouais, oui. Et puis, dans son corps, bien sûr, alors là, c'est sans doute ce qui nous parle le plus, bien sûr, un tout. Aucune partie de son corps n'a été épargnée, la tête, le visage, les crachats, les mains, les pieds, tous ses sens ont été martyrisés, le toucher, bien sûr, hein, par les clous, les fouets, le goût même, ouais, le goût, le vinaigre, le fiel qu'on lui propose alors qu'il est sur la croix, alors qu'il cherche un peu de réconfort, on lui donne du vinaigre. Bon, tout, même l'odorat, bon, toutes ces odeurs du calvaire, qui d'après les auteurs, c'est quelque chose d'épouvantable, ce calvaire. C'était un lieu de supplice, c'était une odeur pestilentielle là-dessus. Ouais. Bon, toutes ces oreilles, tout ce qu'elles ont entendu, bien sûr, tous ces blasphèmes, ces insultes. Ouais. Alors qu'il était en train d'agoniser et en train de prier pour ses bourreaux, ben, on l'insultait encore. Ouais. Et même, ajoute saint Thomas d'Aquin, sa vue a été blessée par la douleur de sa mère. Mais oui. Il a vu sa mère en larmes, au pied de la croix. Et cela, pour lui, a été encore une cause de souffrance. Ouais. Vous voyez, alors, c'est un peu difficile, ouais, de faire le total, hein, de faire le compte. Hein. Et dans un autre passage, justement, vous voyez, saint Thomas d'Aquin encore essaie de voir un petit peu pourquoi et combien notre Seigneur a souffert, vous voyez, toute cette douleur réelle et sensible causée par les tourments corporels et une douleur intérieure, la tristesse, vous voyez, la tristesse produite par la présence de quelques nuisances, etc. Vous voyez. Et ces douleurs, nous dit-il, sont les plus intenses que l'on puisse endurer dans la vie présente. Vous voyez. Non seulement si vous considérez, dirais, la somme des souffrances, mais en plus, je dirais, quant à l'intensité de ces souffrances. Vous voyez. Pourquoi? Eh bien, bon, si vous voulez, passons un peu sur la douleur physique qui, je pense, nous comprenons peut-être un peu plus facilement, oui. Mais quant à la douleur intérieure du Christ, hein, puisque c'est d'elle que nous parlerons cet après-midi, oui, pourquoi a-t-elle été aussi pressante, aussi cruelle, voyez? Eh bien, pour plusieurs raisons. En premier lieu, quelle était la première cause, première raison de cette douleur intérieure? Eh bien, c'était tous les péchés du genre humain pour lesquels il satisfaisait en souffrant. Et tous les péchés du genre humain. Essayez de vous représenter un petit peu ce que ça peut faire. Hein. Non pas en quantité, hein, mais en poids, en pesanteur, hein, sur l'âme de notre Seigneur. Hein. Tous ces péchés, eh bien, vont devenir les siens, d'une certaine façon. Tout cela. Sur lui, l'agneau sans tache, l'agneau très pur, l'agneau innocent, eh bien, il va être fait le péché du monde. Le péché du monde. Le péché, tout. Voilà. Tout cela, ben, c'est sur son âme que ça va peser. Bon, essayez, je dirais, si c'est possible, de, de vous représenter ce que ça a pu être. Bon, quand nous éprouvons nous-mêmes un peu de contrition, ça nous arrive, j'espère, quand même de temps en temps, d'avoir un peu de contrition de nos péchés, un peu de contrition de nos fautes. Ça nous fait mal, quand même. Bon, et qu'est-ce que c'est, nous, les petits péchés qui nous causent une petite contrition? Ça nous fait mal, pourtant, parfois. Alors, bon, essayez de voir un petit peu ce que ça a pu être pour lui, qui n'était pas coupable de ses péchés, qui n'en a été que la victime. Et tous les péchés du genre humain. Et le psalmiste ne parle-t-il pas à propos du Christ, justement, du cri de ses péchés, verba delictorum meorum, le cri de ses péchés, alors qu'ils ne sont pas les siens. Ils deviennent d'une certaine façon les siens. Puis, particulièrement, bon, deuxième cause de cette douleur intérieure, eh bien, c'est la faute des Juifs, qu'elle est sien, les proches, oui, les Juifs, ses compatriotes, ceux de son pays, ceux de chez lui. Oui. Donc, particulièrement, la faute des Juifs et de ceux qui lui infligèrent la mort, et surtout des disciples qui se scandalisèrent pendant sa passion. Oui, donc deuxième raison de cette douleur, eh bien, sont les fautes, eh bien, de ceux qui l'entouraient, de ceux qui l'aimaient, les Juifs, ceux de son pays, ses amis, ses disciples, etc. Bon. Et puis enfin, troisième cause de douleur, bien sûr, quand même, il faut pas l'oublier, même si ce n'a pas été sans doute la plus cruelle, mais enfin quand même, c'en était une, c'était la perte de la vie corporelle. Bon, la vision, bon, l'approche de la mort, il savait qu'il allait mourir, et tout cela, malgré tout, bien, c'est une cause de tristesse, une cause de peur, d'angoisse, de souffrance intérieure, bien sûr. Et la perte de la vie corporelle, naturellement horrible à la nature humaine, ça c'est sûr. Ça. Toute nature humaine a horreur de la mort, ça, c'est vrai. C'est vrai. Et plus la nature est, je dirais, pure et sainte et sensible, et bien plus, je dirais, cette horreur se fait pressante même, ouais. Et si on peut dire, notre Seigneur, dans sa passion, n'était pas protégé par cette carapace, si on peut dire, dans laquelle nous nous enfermons par nos péchés. Mais nos péchés, d'une certaine façon, nous font une sorte de petite armature, vous voyez, qui nous rendent durs, qui nous rendent insensibles à beaucoup de choses qui devraient nous faire souffrir. Vous voyez. Les péchés nous insensibilisent à tout un tas de choses, petit à petit. Oui. Mais notre Seigneur, lui, au contraire, l'homme le plus sensible qui soit. Oui. Aucune protection contre la souffrance, contre la douleur. Oui. Et c'est ce qu'ajoute saint Thomas d'Aquin. L'intensité de la douleur se mesure à la sensibilité de celui qui souffre dans son âme et dans son corps. Sensibilité parfaite du Christ. Aucun désordre dans cette sensibilité. Oui. Or, le corps du Christ était d'une constitution absolument parfaite, bien sûr, puisqu'il avait été formé miraculeusement par l'Esprit Saint. Et donc, sa sensibilité était parfaite. Il était la plus sensible qui soit. Et oui. Et enfin, bon, abrégeons un peu, l'intensité de la douleur du Christ a une dernière cause. Cette passion et la douleur qui en résulta ont été choisies volontairement par le Christ pour libérer l'homme du péché. Aussi a-t-il pris une douleur proportionnée dans son intensité à la grandeur du fruit qui devait en résulter. Voyez, l'intensité de la douleur du Christ, eh bien, était encore intensifiée parce qu'il le voulait. Il voulait souffrir, parce qu'il voulait nous racheter, il voulait nous sauver, et donc il a voulu la souffrance la plus terrible qui soit, la plus grande qui soit. Il a voulu vraiment, je dirais, n'être épargné par aucune souffrance. C'était à la dimension de son amour pour nous. Parce qu'il voulait vraiment tous nous sauver, tous nous arracher à tous nos péchés. Et donc, la plus grande souffrance possible, il l'a voulu. Il a choisi, il a demandé à son Père, d'une certaine façon. Et oui. Vous voyez, bon, on dirait tout cela, mais c'est des choses qu'il faut méditer, hein, qu'il faut considérer. Bon, on pourrait en parler, mais c'est... Il vaut mieux que chacun essaie un petit peu de regarder tout cela. Hein. Et donc voici là justement cette phrase de Sainte Marguerite, pardon, cette phrase de notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie, hein, c'est ce qui nous montre bien justement la profondeur de la douleur du Christ dans son agonie. C'est ici où j'ai plus souffert intérieurement qu'en tout le reste de ma passion. Voilà, dans son agonie, c'est au jardin, c'est à Gethsémani que le Christ a le plus souffert intérieurement. intérieurement, hein, souffrant de l'âme, oui, que dans tout le reste de sa passion. Et c'est là justement tout ce mystère de l'agonie. Bon, parce que dire extérieurement, qu'est-ce qui se passe? Ben, pas grand-chose. Un homme qui est seul, là, dans l'obscurité, dans un jardin, et puis qui prie son père. Voilà, personne ne lui parle, personne ne le touche, personne ne lui fait de mal, apparemment. Et pourtant, eh bien, c'est là qu'il souffre le plus. Alors, justement, eh bien, qu'est-ce qu'a été cette agonie? Eh bien, regardons d'abord peut-être un peu ce que nous disent les textes sacrés. Un petit peu, si vous voulez, quant au déroulement de cette agonie, vous voyez. Puis ensuite, nous essaierons de comprendre un petit peu ce qui s'y est passé. Oui. Nous avions laissé, hein, si vous vous souvenez, notre Seigneur à la fin de ses discours, après la scène. Donc, il a quitté le Cénacle avec ses apôtres, ils ont quitté la ville, donc par la porte sud, sans doute. Il doit y avoir un plan par là-bas. Hein. Et puis là, bon, ben, dans la campagne, autour de Jérusalem, c'est là qu'il leur a donné ses grands discours, sa parabole de l'allégorie de la vigne, hein, pour manifester l'unité qui doit exister entre lui et ses disciples, voyez. Et puis c'est un peu plus loin, sans doute, bien qu'il s'est arrêté pour adresser à son père cette grande prière, hein, qu'on appelle la prière sacerdotale, voyez, voilà. Bon. Et puis une fois que cela est fait, bien, la petite troupe reprend sa route, traverse le Cédron, c'est ce que nous dit Saint Jean, hein, traverser du Cédron, et ils arrivent au jardin de Gethsémani. Hein, ce jardin de Gethsémani, le mont des Oliviers, est à l'est, hein, de Jérusalem. Oui. C'était un jardin où, semble-t-il, notre Seigneur avait l'habitude de venir. C'était pas très loin de la ville. Oui, bon, c'était donc un endroit assez calme, assez retiré quand même, pour être dans le silence, dans la paix, pour prier. Et les apôtres l'avaient accompagné, sans doute, assez souvent. Et Judas lui-même, bien sûr, le connaissait, cet endroit. Il était venu, sans doute, assez souvent aussi avec notre Seigneur. Et donc, il n'aura bien sûr aucune peine, ensuite, eh bien, à accompagner la troupe pour venir se saisir de Jésus-Christ. Hein. Et c'est donc à ce moment-là, bien, que va commencer véritablement, je dirais, extérieurement, du moins, enfin, physiquement, la passion de notre Seigneur. Hein. Le mot de l'agonie, alors on désigne souvent cet épisode-là par l'agonie. Bon, en fait, ce mot de l'agonie, vous le trouverez une seule fois dans les saints évangiles, hein, c'est Saint Luc qui en parle. Lorsqu'il parle de cet épisode dont il est le seul à parler, hein, c'est l'apparition de l'ange qui vient réconforter notre Seigneur et la sueur de sang. Hein, et factus est in agonia prolixius rabat. Oui, et donc, à ce moment-là, dit-il, notre Seigneur entra en agonie et priait avec plus d'intensité, plus de ferveur, si on peut dire. Oui. C'est la seule fois où le mot agonie apparaît, où est l'agonie qui manifeste une sorte de déchirement intérieur, oui. C'est ce bouleversement intérieur de l'âme, oui. Qui n'est pas seulement quelque chose d'extérieur, mais quelque chose surtout d'intérieur. Oui. Bon. Alors, bon, on a pris l'habitude d'appliquer ce mot d'agonie, oui, qui est donc limité à un instant, selon Saint-Luc, bon, de l'appliquer à l'ensemble de cet événement, et les évangiles sont très très brefs, hein, très sobres, hein, sur cette agonie, puisque dans Saint Matthieu, Saint Marc, eh bien, cela se résume en 10 versets. Saint Luc, lui, 7 versets, donc très très court, très sobre, et pas de grands discours, pas de grandes explications. On sent vraiment que les évangélistes, bon, hésitent même un petit peu à expliquer un petit peu, parce qu'on ne peut pas expliquer. Ils racontent un petit peu, ben, ce qu'ils ont su. Mais ce sera très, en termes très, très, très mesurés. Oui. Quant à Saint Jean, lui, il n'en parlera pas. Oui, c'est curieux, l'évangile de Saint Jean ne parle pas de l'agonie. Oui, Saint Jean, n'oubliez pas, Saint Jean, c'est l'apôtre de la gloire de Dieu. C'est l'apôtre de la gloire du Verbe. Hein. Depuis le début jusqu'à la fin, il est tout pris par cette vision, justement, du Verbe de Dieu, oui, du Verbe incarné. Et non pas qu'il ignore l'agonie, non pas qu'il ignore la croix, bien sûr, mais tout cela est toujours orienté vers la gloire, oui, vers le salut. Donc, eh bien, je dirais, bon, certains passages dont il ne parle pas, d'autant que les autres apôtres en ont déjà parlé, donc il n'éprouve pas le besoin de revenir là-dessus. Et avant de rentrer dans son agonie, donc de s'éloigner seul. Eh bien, voici que notre Seigneur donne à ses apôtres un dernier avertissement, oui, une sorte de... Il les met en garde encore une fois. Oui. Il sait que ça va être l'heure justement de l'épreuve pour tous et pour eux. Et donc il les met en garde. Hein, et que leur dit-il, vous serez tous scandalisés cette nuit à mon sujet. Voilà, tous, vous allez être scandalisés. Car il est écrit, je frapperai le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, et toujours, il leur rend toujours confiance, il dit, bon, vous serez scandalisés, vous aurez à souffrir, vous serez dispersés, vous allez m'abandonner, en gros. Bon, ça va bien, ça va bien. Voilà ce qui va se passer. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Voilà. Donc il leur annonce non seulement la passion, la mort, le scandale, mais également la résurrection, et puis ensuite les retrouvailles en Galilée, on se reverra après. Ouais. Et Pierre, le bon Saint-Pierre, toujours très très fougueux, parfois un peu intempestif, dit non, jamais, ça n'arrivera pas à tout cela. Quand même tous seraient scandalisés à votre sujet, moi, jamais. Je ne serai jamais scandalisé, le pauvre Saint-Pierre, s'il avait su ce qu'il laisse passer. Ben, c'est bien, c'est beau, c'est magnifique. Et notre Seigneur, je dirais, ne lui en fais pas le reproche. Il dit, mais mon pauvre Saint-Pierre, en vérité, je te le dis, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Non, jamais de la vie. Saint-Pierre insiste, bien sûr. Non, c'est pas possible, ça. Quand même, il me faudrait mourir avec vous, je ne vous renierai point. Bon, c'est beau, magnifique, Deo Gratia, c'est très bien tout cela. Mais notre Seigneur sait bien ce qui va se passer. Et tous les apôtres emboîtent le pas à Saint-Pierre. Jamais de la vie, on ne vous abandonnera pas. Ayez confiance, on est là, on reste avec vous. Bon, très bien. Et nous, bon, hein, bon, on peut s'appliquer un petit peu les choses de temps en temps. Et nous aussi, on en a fait des proclamations. On en a pris des résolutions à la fin des retraites. Ah là, la misère, que de résolutions nous avons prises. Et combien de temps ça a tenu? Oh, jamais, ça y est, c'est fini cette fois, c'est la vraie conversion, c'est terminé, l'oraison, lecture, machin, tout ça, retraite tous les ans, pouf, pif, vous allez voir, ça tient bon. Combien de temps ça dure? Bon, à chacun de répondre, bien sûr. En silence. Et oui, et voilà. Et que voulaient tous ces apôtres, et là, étaient là encore un petit peu, peut-être, dans l'ardeur, dans le feu, la flamme, un petit peu l'enthousiasme de ce qui s'était passé. Ils venaient de vivre comme des moments magnifiques avec notre Seigneur. La scène, l'institution de l'Eucharistie, le sacerdoce, etc. Tous ces beaux discours que vient de leur faire notre Seigneur, ils ont compris tout un tas de choses, ils ont compris tout cela. Bon, ils ont assisté à la prière du Christ, à son Père, tout ça a été magnifique. Alors, ça y est, quoi, c'était presque le paradis, c'était presque la victoire, oui. Mais bon, alors, voilà, leur foi est vite... Leur foi est bien ardente, sans doute, et elle est très belle, mais sans doute encore un peu faible, parce que, eh bien, voilà, il reste encore la passion à vivre, et elle n'a pas encore été vécue. Et donc, nous rentrons à ce moment-là, eh bien, c'est à ce moment-là que va commencer l'agonie, donc, proprement, de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, si vous prenez les évangélistes, eh bien, les récits sont un petit peu, non pas divergents, mais complémentaires, disons. Hein. Il est parfois difficile peut-être de savoir exactement où ça se... Notamment le problème est surtout avec Saint-Luc. Hein. Saint-Luc qui ne rapporte qu'une prière, ouais, qui condense, qui résume un petit peu tout cela en une seule prière. Et il est le seul, encore une fois, donc à nous rapporter l'épisode de la sueur de sang et de l'ange, hein, consolateur. Ouais. Et les autres, alors, où se situe, oui, cet épisode, par exemple, de l'ange consolateur, de la sueur de sang? Est-ce que c'est à la première, la deuxième, la troisième prière? On ne sait pas, mais à la limite, peu importe, pas que grâce. Hein, c'est... Voilà, donc, arrivé au jardin de Gethsémanie, donc sur le mont des Oliviers, Gethsémanie veut dire pressoir d'huile. Oui, sans doute, y avait-il là un pressoir, bien, où on venait justement presser les olives pour faire de l'huile, hein, donc... Pas de mystère, si vous voulez, dans le nom, hein, de ce lieu. C'est un jardin, donc, sur le mont des Oliviers. Notre Seigneur arrive avec toute sa petite troupe d'apôtres. Là, quelle heure est-il? Difficile de le savoir, mais sans doute vers 21h, 22h, peut-être. Hein. Oui, rappelez-vous un petit peu tout ce qui s'est passé avant. La scène et tous ces discours. Donc, ils y sont déjà, la nuit est déjà bien avancée, donc il fait nuit. Ça, C'est sûr. Et que fait notre Seigneur? Il commence par faire asseoir les apôtres. Voilà. Asseyez-vous ici pendant que j'irai prier. Voilà. Donc il leur dit, voilà, ben, écoutez, restez ici. Moi, je vais avancer un peu plus loin et je vais aller prier. Et il ne va garder avec lui que trois de ses apôtres, hein, les trois privilégiés, Pierre, Jacques et Jean, qui sont les trois apôtres qui ont été témoins à deux reprises, justement, d'interventions assez extraordinaires dans la vie de notre Seigneur. Ouais. Il y aurait bien des choses à dire là-dessus, mais enfin, il faudra que le mentionner. Ces trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, ont été témoins, par exemple, de la résurrection ou de la guérison de la fille de Jaïr. Hein. L'Évangile vous le dit, allez voir dans Saint Marc, chapitre 5, verset 37. Ouais. Lorsque notre Seigneur vient guérir la fille de Jaïr, hein, que tout le monde croyait morte, alors qu'il dit, mais qui était morte sans doute, mais il dit, mais non, la jeune fille dort, et bien il prend avec lui trois apôtres, hein, Pierre, Jacques et Jean. Et ce sont également ces trois apôtres qu'il avait avec lui au moment de sa transfiguration. Donc ils l'ont vu dans sa gloire. Ouais. Alors cela sans doute était justement destiné à les fortifier, à les encourager. Ouais. Ayant vu notre Seigneur dans sa gloire, ils pourront le voir dans son agonie et supporter ce spectacle. Donc voici notre Seigneur qui avance dans le jardin avec ses trois apôtres-là. Et aussitôt, nous dit l'Évangile, aussitôt, eh bien, il est saisi de frayeur et d'angoisse, affligé et attristé. Il commence à être saisi de frayeur et d'angoisse, à être affligé et attristé. Suivant l'évangéliste, les termes sont un petit peu différents, mais enfin, nous comprenons bien ce que cela veut dire, la frayeur, l'angoisse, ouais, tout ça sont des sentiments intérieurs, hein, affligés, attristés, cette tristesse. C'est effrayant quand on pense à ça, hein. Quand on sait qui est notre Seigneur, quand on a compris qui est Jésus-Christ, il est le Verbe de Dieu, il voit Dieu face à face, il a la vision béatifique, et oui, dans son âme, il voit Dieu, et pourtant il connaît la tristesse, tristesse. Et la tristesse, nous savons bien ce que c'est quant à nous, ça c'est sûr. Hein. La tristesse, eh bien, c'est un sentiment qui nous broie un petit peu le cœur, l'âme, l'esprit, tout cela, eh bien, parce qu'il y a un mal présent. Ouais, la présence d'un mal qui cause en nous la tristesse. Ouais. Quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas bien. Ouais, bon, tout cela, c'est la tristesse. Ouais, c'est autre chose que la douleur extérieure, que la douleur physique, ça c'est autre chose. Ouais. Tristesse, c'est un sentiment intérieur. Ouais. On pleure, on gémit, etc. Mais tout cela, ça nous prend au-dedans de nous-mêmes. Oui, mais comment notre Seigneur, oui, qui voit son Père, qui est dans la gloire de son Père même, eh bien, comment peut-il connaître la tristesse? Et pourtant, ouais. Il le dit d'ailleurs lui-même, et c'est le signe sans doute, vous voyez, même, il irait de la... Déjà, hein, lorsqu'il entre à peine dans son agonie, déjà, il irait de la profondeur de son angoisse et de sa tristesse, eh bien, c'est qu'il éprouve le besoin de se confier. Le fait qu'il le dise, oui. Ouais, et ça, c'est... Nous voyons bien, et ça, les pères de l'Église le disent sans cesse, ouais, tout cela, dire, nous manifeste pour beaucoup, c'est peut-être une des raisons pourquoi, justement, les évangélistes nous l'ont rapporté, pour nous manifester l'humanité de Jésus-Christ. Il est vraiment un des nôtres. Il est vraiment comme nous. Il est homme parfait, sans doute, mais il est homme. Et nous-mêmes, nous le vivons, cela nous sentons bien. Quand ça ne va pas, quand nous avons de la peine, de la tristesse, de l'angoisse, mais c'est une sorte de soulagement que de le dire, que d'en parler. Chercher quelqu'un à qui on puisse confier un petit peu sa peine, quelqu'un qui sache nous écouter. Voilà. Vous voyez, ce besoin de parler, et c'est sûr, ça. Bien sûr, c'est une sorte de soulagement, une certaine consolation. On n'est plus tout seul. Vous voyez. Le fait de parler, de le dire, un autre l'entend. Je ne suis plus tout seul. Ouais. Et donc il se confie à ses amis, et cette phrase très très... Mon âme est triste jusqu'à la mort. Ouais. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Voilà. Notre Seigneur, donc, qui nous expose, qui nous dévoile, qui nous révèle, eh bien justement, eh bien cette agonie intérieure. Hein. C'est son âme humaine. Donc c'est l'homme, hein, qui est saisi de tristesse, qui est saisi d'angoisse, hein. Elle est triste. Voilà quelle est la souffrance de Jésus-Christ actuellement. Et la seule souffrance qu'il va connaître là, pendant ces heures à venir, hein, c'est la tristesse. Il n'y aura pas d'autre souffrance, pas d'autre. Encore une fois, il sera seul, personne ne le fera souffrir. C'est cette souffrance intérieure qui est la tristesse. Et l'intensité de ce mal, l'intensité de cette tristesse, eh bien, jusqu'à la mort. mon âme est triste jusqu'à la mort. Alors bien sûr, le sens, hein, c'est mon âme est triste au point de me faire mourir. Hein. Cette tristesse serait capable de me faire mourir, de provoquer la mort en moi. Eh bien, si Dieu ne voulait pas justement que je meure ce soir, hein, s'il ne fallait pas que j'attende encore un peu avant de mourir. Oui, mais c'est donc l'intensité, la profondeur de cette tristesse. Oui. Et il sollicite même, non seulement, vous voyez, c'est très humain tout cela, non seulement donc il leur confie un peu sa tristesse, oui, mon âme est triste jusqu'à la mort, mais en plus il sollicite leur soutien, il sollicite leur aide, il leur demande de l'aider. Demeurez ici et veillez avec moi. Et vigilate mecum. Veillez avec moi. Oui, je vais prier, je vais veiller, mais ne m'abandonnez pas. Veillez avec moi. Voilà. Il va ensuite s'avancer un peu plus loin, mais il leur demande de veiller avec lui. Oui. Sorte de consolation, toujours pareil, qu'il cherche un petit peu. Oui. C'est une certaine consolation, c'est sûr, quand on souffre, quand on est dans la peine, de savoir qu'on n'est pas seul à souffrir, et qu'il y a quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui partage, quelqu'un qui porte avec nous notre fardeau et notre peine. Et même si cette personne est un peu éloignée, on sait qu'il y a quelqu'un qui nous aime et qui souffre avec nous. Bon, on n'est plus tout seul. C'est ça la consolation. Ouais. La consolation, c'est un très beau mot, c'est magnifique comme au cum. Cum solo, cum solis, etc. Oui, c'est celui qui est avec celui qui est tout seul. Tenir compagnie à quelqu'un qui est seul. C'est ça, être le consolateur. Consoler quelqu'un, c'est lui tenir compagnie. C'est pas la peine de faire des discours. Vous savez, bien souvent, d'ailleurs, il vaut mieux se taire. Hein. Les meilleures consolations sont souvent les consolations silencieuses. Voilà. Mais on tient compagnie. Voilà. Vous n'êtes pas tout seul. Et c'est ce qu'il leur demande. Vous voyez, demeurez ici. Donc n'avancez plus, voilà. Bon, vous restez ici, moi, il faut que j'avance seul maintenant. N'avancez plus, mais ne m'abandonnez pas. Voilà, veillez avec moi. Oui. Et il ajoute, selon Saint-Luc, il ajoute encore à ses apôtres une recommandation qu'il leur redonnera encore à d'autres moments. Priez, voilà ce qu'il leur demande. Hein. Veillez avec moi, et quelle est la façon dont il leur demande de veiller avec lui? Eh bien, c'est de prier, prier. Prier, et pourquoi? Afin de ne pas tomber dans la tentation. Oui. Afin de ne pas tomber dans la tentation. Alors attention, hein, il faut bien comprendre ce que dit notre Seigneur ici. Voici une explication que donne Bède. Il ne dit pas « prier afin de n'être pas tenté », mais « prier afin de ne pas entrer dans la tentation ». C'est-à-dire afin de n'être pas vaincu par la tentation. Voilà ce que ça signifie. Prier afin de ne pas entrer dans la tentation. C'est-à-dire pénétrer dans la tentation, c'est-à-dire succomber d'une certaine façon à la tentation. Mais il ne leur dit pas de prier pour ne pas être tenté. Oh non. La tentation est inévitable. La tentation, même jusqu'à un certain point, est nécessaire. Donc ce n'est pas de la tentation qu'il faut chercher à être délivré. Non, non, il faut chercher à être protégé contre, eh bien, le fait d'entrer dans la tentation, de se faire complice un petit peu et d'accepter finalement la tentation, de succomber. Et le moyen de tenir, justement, eh bien, pour ne pas succomber à la tentation, prier. La prière, bientôt. Et tout à l'heure, il leur donnera un autre conseil, mais qui est un peu le même, hein, veiller et prier. Vous voyez, la vigilance. Soyez sur vos gardes, oui, attention, regardez un petit peu où vous allez, ce qui se passe autour de vous, etc. Et puis priez, vigilance et prière, afin de ne pas entrer dans la tentation. Oui, mais entrer, oui, c'est ça, hein, c'est venir être dominé, donc, oui, par la tentation. Et donc, notre Seigneur, après avoir adressé cette demande à ses apôtres, hein, ben de demeurer, de prier, de veiller avec lui, eh bien, s'avance. Hein. D'une cinquantaine de pas, semble-t-il, selon Saint-Luc. Il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre, donc une cinquantaine de pas. Il tombe à genoux, se prosterne le visage contre terre et prie. Voilà. Alors, 50 pas, donc cette distance permet justement, il n'a pas voulu aller trop loin, ni être trop près non plus, hein, pour que les apôtres puissent bien voir un peu quand même et être témoins de son agonie. Donc les apôtres vont pouvoir voir ce qui se passe et entendre également peut-être ses gémissements, ses prières. Voyez. Et les trois évangiles rapportent à ce moment-là bien la même prière pratiquement. Hein, les trois évangélistes sont d'accord hein, pour rapporter en gros la même prière, mon Père, ou Abba Père, ou Père, selon saint Luc, s'il est possible, tout vous est possible, si vous le voulez, oui, c'est les trois formules qu'ils emploient, mais cela revient à peu près au même, que ce calice s'éloigne de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme vous le voulez. C'est une très belle prière, c'est la prière parfaite. Et c'est pourquoi, sans doute, il a voulu qu'elle soit entendue des apôtres, pour nous être conservés. Voilà comment il prie. Voilà, dans son agonie, dans sa détresse, dans sa tristesse, dans son désarroi, voilà comment il prie. Et donc, nous ne devons pas prier autrement dans nos plus grandes souffrances. Nous ne devons pas prier autrement. Nous avons des souffrances à traverser, ça c'est sûr, hein, parfois très cruelles, c'est vrai, mais voilà comment il faut prier. Oui. D'abord, eh bien, s'adresser à son Père. Saint Matthieu qui a ce petit mot, tout petit mot, qui est unique dans l'Évangile, « Pater mi », « mon Père ». Notre Seigneur s'adresse à son Père en lui disant « mon Père ». Oui. Donc ça ajoute une petite note, je dirais, très familiale, filiale, de tendresse. Oui. Il s'adresse à son Père, « mon Père ». Il ne dit pas « Père », il ne dit pas « notre Père », il dit « mon Père ». C'est vraiment le Fils, c'est vraiment l'enfant qui parle à son Père. Oui. Mais nous aussi, il faut parler comme cela à Dieu, mon Père, papa, ben, parfois, peu importe, c'est égal. Oui. Mon Père, il est mon Père, eh oui, il est mon papa, c'est vrai, et je lui dois infiniment plus que mon Père de la terre. Oui. Et donc je dois avoir pour lui une tendresse qui dépasse infiniment celle que j'ai pour mon Père de la terre, c'est sûr. Vous voyez, donc c'est unique dans l'Évangile, cela, oui, c'est tout ce tout petit mot, hein, pater mi, mon Père, ça c'est unique dans l'Évangile, hein, parce que là vraiment, si on peut dire, notre Seigneur se sent un petit peu coulé, d'une certaine façon, et vraiment il se raccroche à son Père, hein, mon Père. Oui. S'il est possible, tout vous est possible, si vous le voulez, vous voyez, c'est par là que commence Jésus-Christ sa prière, et si c'est possible, tout vous est possible, si vous le voulez, donc, et implicitement, vous voyez, cette prière est avant qu'il ait formé quelque demande que ce soit, vous voyez, il y a soumission à la volonté de son Père. Si vous le voulez, nous dit saint Luc, ou bien tout vous est possible, nous dit saint Marc, ou bien encore si c'est possible, nous dit saint Matthieu, si c'est possible. Vous voyez, donc, ce si c'est possible, si vous le voulez, tout vous est possible, ça montre bien que tout dépendra de la volonté de Dieu et de ce qu'il a décidé. Alors, si c'est possible, si vous le voulez, que ce calice s'éloigne de moi. Voilà. Alors ensuite, il expose sa prière, il expose sa demande. Mais d'abord, vous voyez, d'emblée, sa prière est soumise à la volonté et aux décisions que Dieu a prises pour sa passion. Vous voyez. Donc, on ne peut pas dire, et ça serait la chose, serait insoutenable, insupportable, qu'il y ait eu un seul moment une sorte de désaccord entre Jésus-Christ et son Père, cela n'est pas pensable. Il ne peut pas être en désaccord avec son Père. Oui. Que fait-il simplement quand il dit que ce calice s'éloigne de moi? Mais il exprime là, je dirais, le désir de sa nature humaine, cette nature humaine qui tremble, justement, qui est effrayée par la somme de souffrances qu'elle commence déjà à éprouver, si c'est possible, que ce calice s'éloigne de moi. Mais cela, c'est sa volonté, je dirais, d'homme, sa volonté naturelle, c'est ce désir naturel de sensibilité, oui, de la nature qui a horreur de la mort, qui a horreur de la souffrance. Alors, si c'est possible, si vous le voulez, bon, si tel est votre bon plaisir, eh bien, soulagez cette souffrance. Oui, donc, il exprime simplement, si l'on peut dire, la répulsion de sa nature humaine, vous voyez, cette répugnance qu'il ressent profondément en lui-même parce qu'il est homme, qu'il ressent à l'approche de sa passion, à l'approche de sa mort, il l'exprime. Voilà. Bon, vous voyez un petit peu dans quel état de souffrance je suis. Si vous voulez la soulager quelque peu, eh bien, oui, ma nature sera toute contente, certainement, mais, non pas ma volonté, mais la vôtre. Vous voyez. Il n'y a pas de conflit entre les deux, hein. Pas de conflit, simplement Jésus-Christ exprime un petit peu ces débats de sa pauvre nature humaine, ouais, cette répulsion, mais en même temps, mais il exprime eh bien ça, la parfaite concordance, la parfaite harmonie, la parfaite soumission de sa volonté humaine à sa volonté divine. Il y a en lui, vous le savez, ça, une volonté humaine et une volonté divine, et sa volonté humaine, sa volonté en tant qu'homme, est parfaitement soumise à sa volonté divine. Il n'est pas pensable que Jésus-Christ, encore une fois, ait imaginé un seul instant bien vouloir autre chose que ce que voulait son Père. Il nous l'a dit, je ne sais combien de fois dans l'Évangile, ma volonté est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Voilà. Toute la vie de Jésus-Christ, sa nourriture a été la volonté de son Père. Il s'est fait homme, il s'est incarné pour faire la volonté de son Père. Vous connaissez ce passage de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 5. Ouais, c'est ce que nous rapporte saint Paul. Le Fils de Dieu, entrant dans le monde, dit « Vous n'avez voulu ni hostie ni oblation, mais vous m'avez donné un corps. Les holocaustes pour le péché ne vous ont point été agréables, alors j'ai dit « Voici que je viens. Il est écrit de moi en tête du livre que je ferai, ô Dieu, votre volonté. » Voilà pourquoi il s'est incarné, pour faire la volonté de son Père, etc. Et donc on ne peut pas imaginer, même si malheureusement certains hérétiques l'ont fait, imaginer qu'il y ait une sorte de conflit intérieur, vous voyez, Jésus-Christ voulait, ne voulait pas, sorte de dispute un petit peu. Non, absolument pas. Oui. Il y a simplement, il faut toujours revenir à cela, c'est deux natures en Jésus-Christ. Ces deux natures, la nature humaine et la nature divine, tout cela, dans la seule, l'unique personne divine, donc Jésus-Christ, de sa volonté, je dirais, rationnelle, sa volonté supérieure, veut exactement tout ce que veut son Père. Il n'y a pas de distinction entre sa volonté et celle de son Père, mais il y a aussi l'homme, il y a la sensibilité de l'homme, oui, cette sorte de volonté de nature qui est... Il y a le désir, plus qu'une volonté, le désir de la nature qui veut échapper à la mort. Et ça, c'est instinctif, et ça, aucun homme, dirait, ne peut marcher à la mort comme ça, sans trembler. C'est pas possible, ça. C'est à moins d'être, qui a un petit problème, quoi. C'est pas pensable, ça. C'est naturellement, la nature tremble, voilà. Mais notre Seigneur, donc, là, encore une fois, manifeste, eh bien, je dirais, son humanité. Il est vraiment l'un des nôtres, oui. Et en tout cas, vous voyez, donc cette prière se déroule toujours, vous voyez, encadrée, vous voyez, dans la volonté de son Père. Elle commence, vous voyez, par ce recours à la volonté de son Père. Si vous le voulez, tout vous est soumis, tout vous est possible. Ensuite, expression de la prière, que ce calice s'éloigne de moi, mais non pas ma volonté, mais la vôtre. Voilà. Donc la prière commence dans la volonté de Dieu et s'achève dans la volonté de Dieu. Et alors là, vous voyez, ça c'est vraiment la prière parfaite. Une prière qui est faite dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, on peut tout demander à Dieu. Tout ce que vous voulez. Le plus colossal, etc. Du moment que c'est toujours soumis à la volonté de Dieu. Puisque tout vous est possible, eh bien, si vous le voulez, voilà, moi, ce que j'aimerais. Bon, cela dit, non pas ma volonté, mais la vôtre. Voilà. À ce moment-là, demandez tout ce que vous voulez. Et vous serez exaucé. Parce que la volonté de Dieu s'accomplira, même si ce n'est pas la vôtre. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et c'est ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la nôtre. Si ma volonté est mauvaise, si ma demande n'est pas ordonnée, si ma demande n'est pas bonne, il ne faut surtout pas qu'elle s'accomplisse. Surtout pas que ma volonté s'accomplisse, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Bon, maintenant, si ma volonté est accordée, si elle est bonne, ma volonté s'accomplira, mais en fait, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira. Donc, ce sera toujours la volonté de Dieu qui s'accomplira. Deo gratias. Oui. Prière parfaite, ça. Eh oui. Oui, cette première prière de notre Seigneur, donc cette premier moment de la prière de notre Seigneur, oui. Combien de temps a duré cette première prière? Sans doute une heure. Sans doute une heure. Et bon, les auteurs aiment, d'ailleurs, enfin, je pense qu'ils n'ont pas tort, oui, répartir justement ces trois prières de notre Seigneur sans doute sur 3 heures. Oui. Donc il est probable que l'agonie de Jésus-Christ a duré 3 heures. Oui. 3 fois il va revenir prier, 3 fois il va revenir à ses apôtres, et il est vraisemblable que chacun de ces temps de prière et d'agonie aura duré 1 heure à peu près. Oui. Et voici donc notre Seigneur qui, au bout d'une heure, revient vers ses apôtres. Là aussi, vous voyez, les auteurs considèrent un petit peu cela. Pourquoi revient-il vers ses apôtres au bout d'un moment? Mais là aussi, c'est très, très humain. Oui. Nous-mêmes, je pense, nous connaissons un peu ces moments de désarroi, d'angoisse, de tristesse, vous voyez, qui finalement, nous mettent même dans une certaine agitation. On a besoin de bouger un peu, pour distraire un petit peu notre peine, notre tristesse, notre solitude, vous voyez. Voilà, on se met à se déplacer, on va chercher quelqu'un, on va chercher une présence, vous voyez, quelqu'un qui est là, qui nous empêche justement de trop souffrir, un contact humain, un contact amical, affectueux, même une activité quelconque, oui, pour distraire un petit peu notre souffrance, oui, pour oublier un petit peu tout ce dégoût qui est en nous. Eh bien, sans doute, là, notre Seigneur, bien oui, était réduit lui aussi à cet état. Et au bout d'une heure, donc, il revient vers ses apôtres, il vient voir un petit peu, bien justement, s'ils sont toujours avec lui, s'ils ont veillé avec lui, s'ils ont prié avec lui, etc. Et comment les trouve-t-il? Endormis. Et Saint Luc nous dit même, je crois que c'est Saint Luc qui nous dit ça, endormis de tristesse. Endormis de tristesse. Mais sans doute avait-il commencé à assister au début de l'agonie de notre Seigneur, et quand même, je pense, ça a dû les faire souffrir un petit peu, oui. Bon, alors sans doute en plus, la fatigue commençait à se faire tard, oui. L'émotion, tous ces événements, ben, une sorte de tristesse, oui. Parfois, ça arrive comme ça, une sorte je sais pas comment dire ça, mais de langueur, oui, de tristesse un peu, qui nous met dans un certain abattement et qui nous endort, voilà. On voudrait rester un petit peu, mais on a plus envie, même à la limite, oui. Alors, ben, ma foi, on laisse la nature faire les choses et puis on s'endort. Voilà. Eh bien, c'est ce qui est arrivé à nos pauvres apôtres. Ouais. Ils se sont endormis, bon, fatigués, tristes, fatigués, abattus et donc endormis. Et notre Seigneur revient vers eux et les interpelle, oh, gentiment. Il les réveille quand même, enfin. Et à qui s'adresse-t-il? À Pierre. Ah, Pierre, Pierre. Il ne lui dit pas, bien sûr, mais... Tu te rappelles un petit peu tout à l'heure ce que tu me disais, les belles proclamations. Et donc c'est à lui qu'il s'adresse, oui. D'abord parce qu'il est le chef, attention, c'est lui le chef des apôtres, hein, Pierre. C'est à lui qu'a été promis le gouvernement de l'Église, c'est lui qui a été institué chef du collège apostolique, si l'on veut dire. Donc c'est à lui que notre Seigneur s'adresse. Et puis justement, ben, c'est lui qui tout à l'heure menait un petit peu l'équipe, hein, pour protester justement de la fidélité, etc. Non, non, on ne vous abandonnera pas, même si tout le monde est scandalisé, nous, on restera avec vous, etc. Eh bien, c'est pourquoi Jésus-Christ s'adresse à lui. Et comment l'appelle-t-il? C'est très révélateur, cela aussi. Il ne l'appelle pas Pierre. Non, mais il l'appelle Simon. Simon, hein, Simon, c'est le vieil homme. Eh oui, vous voyez, Simon, c'était le nom qu'il portait avant, quand il était pêcheur, quand il était le baroudeur, là, sur les bords du lac de Tibériade, etc. Bon, c'était le vieil homme, voilà, il s'appelait Simon. Après, notre Seigneur l'a appelé à lui, et là, quand il en a fait ce nouvel homme, oui, bon, apôtre, et là, il lui a donné un nouveau nom, Pierre. Bon, Pierre, c'est le roc, oui, solide. Et là, comme Pierre a défailli, eh bien, notre Seigneur lui redonne son ancien nom. Voilà, tu es retourné au vieil homme, d'une certaine façon. Simon, tu dors, c'est tout. Simon, dormis. Ben, eh oui, bon, c'est pas un vrai reproche, mais quand même, voilà, hein, c'est plein de délicatesse, bien sûr, mais il y a quand même une certaine tristesse, sans doute, justement, dans cette interpellation de notre Seigneur, hein. Hein, vous qui faisiez de si belles protestations de fidélité tout à l'heure, eh bien voilà que maintenant vous dormez, hein, et vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi, voilà, et ce n'était que la première heure pourtant, eh bien non, même une heure. Vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Oui. Et il renouvelle sa recommandation, veillez et priez, afin de ne point tomber dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Hein, nous connaissons bien, je pense, ces paroles. Ce sont quasiment les ultimes recommandations que Jésus-Christ laissera à ses apôtres. Hein, veillez et priez, afin de ne point tomber dans la tentation, l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Oui. Veillez. Donc ce devoir de vigilance, donc, c'est la prudence, prudence humaine, prudence surnaturelle, prudence, veiller. Hein. Veiller, c'est le rôle de la vigie, scruter un petit peu l'horizon pour voir ce qui se passe, un petit peu, ne pas se jeter dans les pièges, ne pas se laisser surprendre, etc. Éviter au contraire justement les pièges qui nous sont tendus, veiller, mais ne pas se laisser mener comme ça au vent des événements, non, veiller, ce devoir de prudence, donc. Et puis la prière, bien sûr, hein, ça c'est les deux, je dirais, c'est les deux garde-fous du baptisé, du chrétien, la vigilance et la prière. Hein. Et à ce moment-là, la tentation viendra, sans doute, alors, c'est clair, la tentation viendra, mais nous ne tomberons pas dans la tentation. Ouais, la tentation n'aura pas prise sur nous, hein, si nous veillons et si nous prions, hein, parce que bien sûr, l'esprit est prompt, voilà, encore une fois, hein, des proclamations, des résolutions, ça va bien, spirituellement, intellectuellement, ça va toujours, mais la chair. Hein. Et donc, c'est cette chair, bon, la chair, c'est l'homme, simplement, ce pauvre homme, que nous sommes, chacun d'entre nous, bien qu'il faut justement garder à l'abri d'une certaine façon. Hein, c'est sur lui qu'il faut veiller. Donc, ouais. Veiller et prier afin de ne point tomber dans la tentation. Et voici que notre Seigneur repart. Donc après les avoir un petit peu secoués, gentiment, enfin un petit peu réveillés, les avoir invités encore, leur demander encore de veiller, de prier avec lui, etc. Et notre Seigneur, bien, retourne un petit peu plus loin. Oui, il faudrait pouvoir se représenter ça, bon, sans faire du théâtre, hein, c'est pas, il s'agit surtout pas de faire du théâtre, hein, mais se représenter un petit peu la scène, ouais, c'est le jardin des Oliviers, donc, bah, peut-être un peu, pas comment c'est, on approche de Pâques, peut-être un petit rayon de lune, ouais, cette obscurité, cette solitude de notre Seigneur, ouais, enfin, je sais pas, essayer de voir un petit peu comment tout cela pouvait se passer, pour essayer de tenir compagnie un petit peu à notre Seigneur, ouais. Et voici que notre Seigneur, eh bien, voilà, retourne donc dans sa prière, oui, sans doute une deuxième heure ici qui va se passer. Et la prière de notre Seigneur se fait un tout petit peu différente, oui. Trop souvent, je crois, on ne distingue pas bien les deux prières de Jésus-Christ, du moins les formules que nous en avons dans les évangiles, oui. Mais notre Seigneur sent bien que sa souffrance intérieure, eh bien, continue. Elle n'est pas évacuée, elle est toujours là, bon, malgré, je dirais, tout sa prière et malgré les efforts, les recherches de consolation qu'il a fait. Et donc cela est pour lui un indice manifeste et clair, hein, bien que la volonté de son Père, eh bien, s'accomplit. Et la volonté de son Père, eh bien, c'est qu'il continue à souffrir. Voilà. Bon, il le savait déjà, bien sûr, mais je dirais là, la volonté se manifeste clairement. Et donc, il dirait, la prière qu'il fait devient un tout petit peu différente, vous voyez. Que dit-il, cette fois, à son Père, et la formule de cette deuxième prière, il n'y a que Saint Matthieu qui nous la rapporte, vous voyez. Mon Père, si ce calice ne peut passer sans que je le boive, que votre volonté soit faite. Vous voyez, il n'y a plus de demande, là. Ouais. Donc, c'est d'une certaine façon, mon Père, eh bien, puisque vous voulez que je boive ce calice, que votre volonté soit faite. Donc c'est une prière d'acceptation, une prière d'adhésion, et une prière d'abandon, tout simplement. Voilà, je ne demande plus rien. Donc il ne demande plus à son Père, vous voyez, que le calice s'éloigne de lui, mais voilà, si ce calice ne peut passer sans que je le boive, bon, puisque telle est votre volonté, eh bien, que votre volonté soit faite. Vous voyez, c'est le fiat. Qu'est le fiat ? Le fiat du premier instant de son incarnation, c'est le fiat de Notre-Dame, c'est le fiat. Voilà, et c'est le fiat de toute âme baptisée, eh bien, devant toutes les volontés de Dieu, qui sont claires, qui sont manifestes, eh bien, au lieu de se débattre, de rouspéter, de gémir, oh mais non, c'est pas normal, c'est pas juste, ceci, cela, fiat. Et c'est la prière libératrice. Une fois qu'on a dit fiat, la volonté de Dieu s'accomplit, et à ce moment-là, c'est Dieu qui prend les choses en main. Il n'y a plus d'obstacle à la volonté de Dieu, et donc, eh bien, tout se passera selon la volonté de Dieu, et donc, tout se passera bien. C'est clair, c'est sûr, oui. Ah, soumission de l'âme, soumission parfaite de l'âme, bon, qui n'exclut pas, attention, hein, c'est répulsion de la nature. Toujours pareil, hein, ça, c'est... faut pas croire, ce n'est pas parce qu'on est soumis parfaitement, intérieurement, parfaitement soumis à la volonté de Dieu, que la souffrance va cesser. Non, les répulsions naturelles vont continuer, vont demeurer, la souffrance va demeurer peut-être, mais l'âme sera dans la paix, parce qu'elle est dans la main de Dieu. Voilà. parce qu'elle adhère à la volonté de Dieu. Et donc, eh bien, voilà, c'est cet accord des volontés qui réalise justement la paix. Et cette acceptation de la volonté de Dieu, eh bien, va permettre justement, eh bien, à cette volonté de Dieu de s'accomplir, oui, alors, à la perfection. Et on peut penser que cette deuxième heure de l'agonie de notre Seigneur soit son heure la plus cruelle. Oui. Parce que là, il a dit fiat, et c'est peut-être à ce moment-là, justement, bien que, ayant donné la permission, ayant donné toute liberté à la volonté de Dieu de s'accomplir en lui, eh bien, c'est peut-être là qu'il va être vraiment au cœur de son agonie. Et c'est peut-être à ce moment-là, justement, bien qu'il connaîtra cette sueur de sang, hein, dont nous reparlerons dans quelques instants. Oui. Troisième fois, au bout d'une heure sans doute, encore une fois, notre Seigneur revient vers ses apôtres, il revient de nouveau, et comment les trouve-t-il? Eh bien, encore endormis, une nouvelle fois. Bon, combien de temps ont-ils tenu ça? Dieu seul le sait. Il revient de nouveau vers eux, il les trouve endormis, car, nous ajoute Saint Matthieu et Saint Marc, car leurs yeux étaient apesantis. Ou bien Saint Marc nous dit, car leurs yeux étaient apesantis de sommeil, et ils ne savaient que lui répondre. Les pauvres, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont surpris encore une fois, une sorte de flagrant délit de faiblesse et de fatigue, de je sais pas quoi, etc. Bon, ils sont tous... Voilà, tout chiffonné, si l'on peut dire, ouais, etc. Et puis notre Seigneur qui vient encore les reprendre, les réveiller, les pauvres, ils ne savent pas quoi dire. On n'a rien à dire. Sinon confesser notre faiblesse. Ben oui, on a dormi. Qu'est-ce que vous avez fait? Bon, et notre Seigneur repart. Vous voyez, au fur et à mesure que nous avançons, bien, bon, nous avons de moins en moins de témoignages, des paroles que dit notre Seigneur. Notre Seigneur repart sans doute pour une troisième heure de prière, oui, et que fait-il là? Eh bien, nous ne le savons pas, sinon Saint Matthieu seul nous explique cela très très brièvement, verset 44. Il s'en alla encore et il pria pour la troisième fois en disant les mêmes paroles. Oui. Voilà, troisième heure d'agonie, de solitude, de souffrance. Et ensuite, eh bien, au terme de cette troisième prière, il revient vers eux et les trouve encore endormis, encore une fois, bien sûr, et cette fois que leur dit-il, eh bien, dormez, allez, va, dormez en paix, dormez maintenant et reposez-vous, car voici que l'heure approche et le Fils de l'homme sera livré aux mains des pécheurs. Donc, voilà, allez, va. Bon, il sait que son agonie est terminée, il sait que l'heure va être... est venu justement, bien, où on va venir le chercher, etc. Donc, eh bien, que fait-il? Eh bien, il demande à ses apôtres de dormir. Voilà, reposez-vous, prenez des forces, hein, parce que, eh bien, c'est maintenant que vous en aurez besoin, hein, dormez, reposez-vous. Une sorte de, peut-être de résignation, un peu mélancolique chez notre Seigneur, ben, puisque vous ne savez rien faire d'autre que dormir. Eh bien, dormez, allez-y, dormez, mais prenez des forces, hein, parce que vous en aurez besoin, ouais. Oui, et donc peut-être il est peut-être bon de parler un peu quand même de cet épisode donc, dont Saint Luc est le seul à nous parler. C'est l'ange du ciel et la sueur de sang. C'est un épisode très 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 curieux. Alors là-dessus, bien sûr, les pères de l'Église, les théologiens sont tous penchés là-dessus. Hein, qu'est-ce que cela signifie, cet ange même? Quel était-il? Vous voyez, cet ange. Cet ange qui lui apparaît du ciel pour le fortifier, nous dit Saint Luc, et étant tombé en agonie, il priait plus instamment. Oui, alors bien sûr, les anges, bon, n'imaginons pas, oui, certains l'ont pensé que c'était l'ange gardien de notre Seigneur. Hein. Notre Seigneur n'avait pas d'ange gardien. Comment voulez-vous qu'il ait un ange gardien puisqu'il est le Fils de Dieu? De ne pas avoir d'ange gardien. Oui. L'ange gardien, c'est quelqu'un qui veille sur nous pour nous guider, nous instruire, nous éclairer, nous protéger. Est-ce qu'un ange peut instruire le Fils de Dieu? Enfin, comme, qu'est-ce qu'il voulait qu'il lui apprenne, ce pauvre ange? Il en sait tout un tas, mais le Fils de Dieu en sait beaucoup plus que lui. Donc, un ange n'a rien à apprendre au Fils de Dieu. Et cet ange qui vient consoler notre Seigneur, donc il vient le fortifier, il ne vient pas lui raconter d'histoire d'une certaine façon, ou lui dire, mais non, vous inquiétez pas, tout va bien s'arranger. Certainement pas, c'est pas. Non, semble-t-il, bien tout simplement, il vient lui tenir compagnie, un ange qui est un témoin du ciel, un envoyé de son Père, eh bien, qui vient peut-être assurer auprès de lui, eh bien, cette présence justement, que les apôtres ne pouvaient pas assurer. Ou bien essayer justement d'apporter à notre Seigneur dans cette angoisse eh bien, la consolation eh bien, de la présence du ciel, la présence de son Père, une certaine forme de présence, vous voyez. C'est un ange, c'est une apparition réelle hein, de cet ange. Hein. L'évangéliste le dit bien, il lui a paru. Un ange lui a paru. Donc une apparition visible, hein, sensible. Et si la chose a été rapportée, c'est que sans doute, même peut-être, de loin, l'un ou l'autre des apôtres l'a vu, cet ange, peut-être, ouais, tenir compagnie à notre Seigneur. Ouais. Donc une apparition réelle, objective, hein, ce n'est pas une sorte d'imagination ou je ne sais quoi, non. Et qui vient donc réconforter ou conforter notre Seigneur, voyons. Ouais. Bon, le conforter sous le rapport, bien sûr, de son âme, cette âme torturée, cet esprit torturé. Et même on peut imaginer peut-être, vous voyez, essayer peut-être d'adoucir un peu sa souffrance, vous voyez, même, dirais-je, sa souffrance physique, parce que, bon, nous disions, bien sûr, que la souffrance de notre Seigneur n'est pas une souffrance physique dans cette agonie, c'est une souffrance morale, spirituelle, intérieure, mais quand même, eh bien, je dirais, et cela arrive chez nous aussi, que des souffrances intérieures, qui ne sont que spirituelles, en viennent à nous causer des souffrances physiques même. Des véritables souffrances physiques, vous voyez, par ce qu'on appelle la redondance, vous voyez, entre l'âme et le corps, vous voyez, l'âme et le corps font un tout, et ce qui se passe dans l'âme, eh bien, a des répercussions sur le corps, et de même, ce qui se passe dans notre sensibilité a des répercussions sur notre âme, ça c'est quotidien, cela nous vivons tous les jours. Et donc, eh bien, cette souffrance intérieure, eh bien, en finit par avoir chez lui, justement, ces expressions extérieures, vous voyez, et qui vont s'exprimer justement par cette sueur de sang. Cette sueur de sang dont les spécialistes, les théologiens, les médecins, etc., disent que c'est une chose qui arrive effectivement hein, dans des grandes angoisses, des grands tourments intérieurs, vous voyez. Bon, sans aller peut-être, nous, quant à nous, jusqu'à suer du sang ainsi, bon, il nous arrive peut-être dans des moments de grande angoisse, de grande frayeur, de grands tourments, mais de transpirer. Là, je crois que c'est vrai, c'est des choses qui arrivent quand on est vraiment, je parle, une frayeur, quelque chose d'assez, qui nous prend vraiment au fond de nous-mêmes, une certaine sueur, vous voyez, qui nous prend, alors que, ce qu'on appelle des sueurs froides, même, ou je ne sais quoi, etc. Donc, ça nous arrive parfois de transpirer sous l'effet de la peur, de la frayeur, de la tristesse, de l'angoisse, etc. Ouais. Eh bien, notre Seigneur, sa frayeur, sa tristesse, son angoisse va aller jusqu'à cette sueur de sang. Bon, alors, médicalement, je ne vous l'expliquerai pas, je laisserai ça à d'autres, mais c'est un phénomène qui arrive donc de temps à autre, vous voyez. Donc bon, attention, ce n'est pas le sang qui va couler à flot, hein, attention, n'imaginons pas quand même, mais quand même à cette sueur, vous voyez, naturelle, vont se mêler des gouttes de sang, un peu de sang qui va sortir, vous voyez, à l'extérieur par les pores de notre Seigneur et cette sueur avec ce sang mêlé donc va couler même jusqu'à terre, nous dit l'apôtre, jusqu'à terre. Donc c'est que ça devait quand même être assez violent, hein, assez intense. Ouais. Et ça c'est sans doute une souffrance, je pense, la cause d'une souffrance physique, mais qui est l'effet de cette souffrance intérieure, de cette souffrance morale, souffrance spirituelle. Ouais. Alors voyez un petit peu ce que devait être cet état de déchirement, d'angoisse, d'agonie intérieure, hein, cette horreur dans laquelle vivait certainement l'âme de notre Seigneur. Hein. Comme dit saint Bernard dans un sermon, oui, Jésus a pleuré non seulement par les yeux, mais par tout son corps des larmes de sang, afin de purifier toute l'Église. Et non seulement avec ses yeux il a pleuré, mais il a pleuré avec son corps, des larmes de sang, afin de purifier toute l'Église. Et oui, parce que l'Église est son corps, le corps mystique. Oui. Eh bien, son corps a souffert totalement, hein, ses larmes de sang. Hein. C'est l'Église ainsi qui est purifiée par ses larmes de sang. Hein. Et c'est Bède encore qui nous donne ce petit commentaire sur cet épisode-là de la sueur de sang et de l'ange, vous voyez. Quand vous aurez prié avec humilité, le front prosterné contre terre, avec persévérance, vous verrez aussi apparaître, nous assure donc Bède, l'ange de Dieu qui viendra vous consoler et présenter votre prière au Père qui est aux cieux. Mais oui. Et si nous savons nous aussi prier comme notre Seigneur avec intensité, sans nous décourager, oui, pendant des heures et des heures et des heures, même si, bon, etc., nous sommes dans la tristesse, l'angoisse la plus profonde, eh bien, nous verrons peut-être apparaître l'ange de Dieu qui viendra nous consoler. Il viendra nous consoler et peut-être simplement nous dire, ben voilà, ben ta prière, eh bien, elle est entendue de Dieu. Alors, patience. Attends. Cette agonie de notre Seigneur, c'est quelque chose de terrible et qui comporte bien des mystères, hein, nous le disions, des mystères, cette agonie. Le premier mystère, eh bien, c'est peut-être justement, oui, la compatibilité. La compatibilité, vous voyez, de la vision béatifique avec cette horreur dans l'âme de notre Seigneur, hein, si vous vous souvenez de ce que nous disions il y a fort longtemps déjà, hein, quant à la science qu'avait notre Seigneur, hein, science divine bien sûr, et même dans son âme humaine, cette vision béatifique, la science infuse et la science acquise, vous vous souvenez tout cela très certainement. Bon, donc notre Seigneur savait... Il voyait Dieu, il avait cette vision béatifique, voyez, et cette vision béatifique est cause de joie, est cause de la plus grande joie. Alors comment peut-il se faire qu'il y ait en même temps, voyez, vision béatifique et donc joie intense dans l'âme de notre Seigneur, et pourtant cette horreur, voyez, cette tristesse. Eh bien, si vous vous souvenez ce que nous disions, ce que nous disait saint Thomas, hein, lorsque le Christ était pèlerin sur cette terre, hein, donc lorsqu'il était un de nous, le rejaillissement de la gloire ne se faisait pas de la partie supérieure de son âme sur la partie inférieure, ni de l'âme sur le corps. Notre Seigneur, oui, Dieu, ne voulait pas, justement, oui, pour connaître la souffrance, oui, telle que nous la connaissons, il interdisait à cette gloire qu'il avait de la vision béatifique de rejaillir sur les parties inférieures de son âme, oui, les parties qui sont occupées, justement, aux choses du temps, aux choses de la terre, oui. Donc la gloire, hein, de la vision béatifique ne rejaillissait pas sur la partie inférieure de son âme. Et de même, inversement, la partie supérieure de l'âme du Christ n'était pas entravée dans son opération par la partie inférieure. Oui, et de même, eh bien, une sorte de cloison, hein, je crois, nous avions dit, une sorte de cloison, bon, un petit peu, pas tout à fait hermétique, un petit peu comme ça laissait passer un petit peu à certains moments du moins, vous voyez, sorte de cloison, donc dans le sommet de l'âme de Jésus-Christ, la vision béatifique, la gloire et la joie, et dans la partie inférieure, eh bien au contraire, la tristesse, hein, l'horreur, l'abandon. Ce qui permettait donc à la même âme, c'est sûr, notre Seigneur n'a qu'une âme, vous voyez, d'être à la fois, en même temps, vous voyez, dans la joie ben, de la vision de Dieu, la joie de la vision, de l'accomplissement de la vision de Dieu, et en même temps dans l'horreur, la tristesse, et l'angoisse. Ouais. Et puis deuxième question, qui peut être encore plus mystérieuse, ouais. Mais comment notre Seigneur a-t-il pu souffrir à ce point-là, ouais. Qu'est-ce qui peut expliquer, dirais, cette intensité de souffrance, ouais. Parce que quand même, bon, bien sûr, on peut, et c'est vrai tout cela, on peut se dire quand même notre Seigneur était innocent. Il est innocent. Il fait bon, tout ce qu'il voit, vous voyez, ces causes que nous avons vues tout à l'heure de la souffrance de notre Seigneur. Bon, j'ai oublié, je vais revenir, voilà. Tous les péchés du genre humain, bon, d'abord, c'était là la première raison de cette souffrance de notre Seigneur, disions-nous. Ensuite, nous disions surtout la chute des Juifs et tous ceux qui étaient les plus proches, tous ceux qui étaient coupables véritablement de sa mort, ses proches, etc. Et puis ensuite, la perte de sa vie corporelle. Vous voyez, trois motifs, hein, à cette souffrance. Vous voyez. Bon, comment, je dirais, ces trois visions ont-elles pu, malgré tout, le jeter dans un tel désarroi, une telle horreur, vous voyez. Si nous examinons ces trois motifs, bon, il est certain que nous les voyons là dans un ordre décroissant. Le moins important des trois, c'est sans doute le troisième, la perte de sa vie corporelle. Sans doute, attention, hein, ne disons pas quand même l'importance de la chose, mais parmi tout cela, la proximité de sa mort, la proximité de sa passion, la proximité de ses souffrances, qui sans doute lui causait une horreur ça, naturelle en lui, était sans doute le motif le moins important de cette souffrance. Parce que malgré tout, justement, même dans sa connaissance humaine, il savait de science certaine, ouais, eh bien, que le que cela finirait et que cela aurait un jour un terme et que tout cela, au contraire, eh bien, s'achèverait dans la gloire de la résurrection, etc. Oui. Donc, malgré tout, quelle que soit l'horreur des souffrances qu'il aurait à connaître, oui, cette répulsion instinctive, oui, à l'approche de sa mort, n'était sans doute pas le motif le plus profond, hein, de sa souffrance. Oui. La chute des Juifs, la chute de ceux qui le péché de ceux qui le mettraient à mort, etc., la chute même de ses disciples, sans doute aussi était un motif très très puissant, hein, de souffrance. Oui. Mais, je dirais, malgré tout, je pense que ce n'était pas le motif non plus le plus important. Et il est clair, très certainement, que le motif le plus profond, le plus mystérieux peut-être de la souffrance de notre Seigneur, eh bien, ce sont les péchés des hommes. Les péchés des hommes. Le Christ, nous dit encore saint Thomas d'Aquin, s'est affligé non seulement de la perte de sa propre vie corporelle, mais aussi des péchés de tous les autres hommes. Sous ce dernier aspect, la douleur du Christ a dépassé celle que pouvait provoquer la contrition dans n'importe quel homme. Elle avait en effet sa source dans une sagesse et une charité plus grande et augmentée en proportion. Et d'autre part, le Christ souffrait pour tous les péchés à la fois. Suivant la prédiction d'Isaïe, il a vraiment porté sur lui toutes nos douleurs. Oui. Et donc la perte de sa vie humaine, sans doute, oui, bien sûr, l'approche du moins de sa mort, la chute des Juifs, le péché des Juifs, la chute de ses proches, sans doute aussi, mais surtout, et le motif le plus profond de sa souffrance, c'est justement, bien, c'est cette somme des péchés humains. Oui. Certains auteurs m'en parlent de cette solidarité du Christ et de la race humaine. Hein. C'est vrai que cette solidarité, mais attention, cette solidarité, il ne faut pas la voir, je crois, uniquement dans sa dimension humaine, mais il faut la voir dans sa dimension surnaturelle et mystique. Hein. Et je crois que là, vous voyez, dans cette agonie, si nous voulons bien comprendre l'agonie de notre Seigneur, ce qu'elle a été, il faut revenir à la doctrine du corps mystique. La doctrine du corps mystique. Ouais. Voilà. Le corps mystique dans lequel, eh bien, il y a une tête, il y a un chef et il y a des membres. Et tout ce qui appartient à l'un appartient à l'autre. Ouais. Ouais, parce que si vous considérez, vous voyez, par exemple, les péchés des Juifs, etc., bon, c'est vrai que tous ces péchés qu'a vu notre Seigneur, si vous voulez, bon, il y a plusieurs façons de les considérer. Ou bien on peut les considérer, comme l'a fait sans doute Jésus-Christ, comme étant des offenses envers Dieu. Et il est certain que, étant donné la qualité, la nature, il y a là, de l'amour que Jésus-Christ avait pour son Père, vous voyez, la vision de tous ses péchés a dû le jeter dans un abîme de désolation, de voir un petit peu toutes ces insultes. Insulte adressée à ce Père qu'il aime tant. Oui. Et ça, c'est une chose qui est intolérable, qu'on ne peut pas supporter, cela c'est vrai. Mais alors, voyez, si vous considérez cela dans la vision du corps mystique, voyez, tous ces péchés qui sont adressés à mon Père, qui s'adressent à mon Père, qui insultent mon Père, qui frappent mon Père, tous ces péchés sont commis par mes membres. Or, ce qui est fait par un membre, on l'attribue à qui ? On l'attribue à la tête. Et c'est jusque-là que Jésus-Christ a voulu connaître l'horreur du péché, comme s'il en était lui-même le coupable, alors qu'il était sans péché, bien sûr, pur, innocent. Mais il a voulu, sans doute, bon, bien sûr, hein, ça, c'est un petit peu mystérieux, hein, c'est pourquoi, bien attention, hein, sans doute a-t-il voulu connaître dans son âme l'horreur du péché tel, si on peut dire, bon, tel qu'il la connaîtrait si c'était lui-même l'auteur de ses péchés, alors qu'il est pur, encore une fois, qu'il n'a commis aucun péché. Ouais. Mais si vous voulez, il a voulu connaître, peut-être, et c'est pas du tout improbable cela, connaître en lui-même le dégoût que devraient nous provoquer tous nos péchés, et qui ne nous provoque pas. Voilà. C'est ce manque de contrition, ce manque de repentir, ouais, cette absence de dégoût. On devrait être dégoûté. Nous devrions être en permanence dégoûtés par nous-mêmes. Tous ces péchés que nous commettons sans cesse, qui ne nous empêchent absolument pas de dormir. Et bien voilà. Et c'est tout cela qu'il a voulu connaître. Oui. Par cette sorte d'incorporation, oui, cette réelle incorporation, au cours de son agonie, et bien notre Seigneur a assumé d'une certaine façon tous les péchés des hommes. Il en a pris, d'une certaine façon, la culpabilité, la responsabilité, et il en a connu, je dirais, l'angoisse, vous voyez, de les avoir commis. Ce n'était pas lui, bien sûr, qui les avait commis, mais c'était ses membres, les membres de son Église, les membres de son corps mystique, toutes ces âmes qu'il rachetait par son sang, eh bien, péchaient et insultaient son Père. Et cela l'a jeté dans un dégoût qui est incalculable, hein, incalculable. Oui. Eh oui, ici, ce que dit un auteur ici, oui. Entre le Christ et l'humanité se trouvait, existait une union indicible, unique, qui faisait de lui non pas un délégué des pécheurs, mais le pécheur, ou pour prendre le mot de saint Paul, le péché. Non pas le représentant de l'humanité coupable, mais l'humanité coupable, parce qu'il est, en un sens dont toute la réalité est impossible à saisir, le chef de cette humanité déchue qu'il doit ramener au ciel. Et oui, tous ces péchés, eh bien, ils sont commis par ceux dont je suis le chef, par ceux dont je suis responsable. Et oui, et je dois les ramener à mon Père. Et il pêche. Oui, c'est là, je crois, un petit peu dans ce cadre-là qu'il faut considérer, je crois, là, l'agonie de notre Seigneur, si nous voulons peut-être commencer à comprendre un petit peu ce qu'elle a été, pourquoi il a tant souffert. Oui, c'est ce que dit saint Paul. Lui qui ne connaissait pas le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Attention, péché, ce n'est pas le verbe, hein, c'est le substantif. Hein. Dieu l'a fait. C'est lui qui est devenu le péché des hommes. Ouais. Et il le fallait. Il fallait que Jésus-Christ devienne le péché des hommes. Et c'est dans cette agonie, sans doute, qu'il est devenu ce péché des hommes. Ouais. Si on peut dire, voyant affluer dans son esprit, dans son âme, tous les péchés des hommes, bon, depuis celui d'Adam jusqu'au dernier, du dernier des hommes, etc., tout cela, eh bien, tout cela, il les a pris sur lui. Il en a pris la culpabilité, il en a pris la responsabilité. Il est devenu le péché des hommes. Tous les péchés des hommes se sont résumés, se sont condensés dans son âme. Voyez, de manière à ce qu'ensuite, eh bien, lorsqu'il mourrait, eh bien, tout le péché des hommes soit détruit par sa mort. Comme dit saint Paul, toujours. Hein. Dieu l'a fait pécher pour nous. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, dit encore saint Paul aux Galates. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en se faisant pour nous malédiction. Et il n'est pas... Bon, fais attention à ce qu'on dit, mais il n'est pas impossible même que Jésus-Christ, peut-être dans cette agonie, ait voulu se sentir... Oui, se sentir s'éprouver même à cause de ce péché qu'il était devenu comme maudit de Dieu, réprouvé de Dieu. Voilà. Toute cette réprobation qui s'abat sur le péché des hommes, eh bien, c'est sur lui qu'elle est tombée. Et ce que dit saint Paul, c'est très fort quand même. Il s'est fait pour nous malédiction. C'est lui-même qui a voulu être le maudit. Pour que nous ne le soyons pas. Invraisemblable, ça. Alors on comprend qu'il ait souffert, bien sûr, hein, qu'il ait souffert justement de se sentir un petit peu comme ça, comme rejeté de son Père, ouais, par cette somme de péché, bien dont il acceptait d'une certaine façon la responsabilité, la culpabilité, et peut-être d'autant plus souffrant, d'autant plus douloureux justement, bien que tous ces hommes pour lesquels il souffrait, tous ces hommes pour lesquels il allait mourir, sachant qu'il souffrait et qu'il mourait pour lui, eh bien, continuerait à pécher quand même. Il faut le faire. Hein. Et donc, cette douleur, je dirais qui vient encore accroître peut-être cette somme de douleur, de savoir eh bien, que tant de douleur serait inutile pour certains. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Ils vont continuer. Ils vont se damner. Et certains vont se damner, malgré ça. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus? Effrayant, ça. Effrayant. Eh oui, vous voyez, cette agonie de notre Seigneur, hein, c'est encore une fois, nous ne faisons là que balbutier quelques petites choses, hein, mais c'est incommensurable, ça. Notre Seigneur assume tous les péchés de ses membres. Hein, il se fait le péché des hommes, il se fait le maudit de Dieu, afin de pouvoir tout expier, tout détruire, tout réparer, tout racheter. Ouais. Eh oui, il ne faut pas qu'il y ait un seul péché qui échappe, si on peut dire, à cette rédemption, donc il prend tout. Il devient vraiment cet agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La nuit qui enlève le péché du monde. Il l'enlève, on peut dire, il enlève du monde, il le prend en lui, et ensuite il va le détruire pour que le péché disparaisse de la terre. Et depuis le Vendredi Saint, le péché ne devrait plus exister sur la terre. Il ne devrait plus. Si les hommes avaient compris ce qui s'était passé, eh oui. Eh oui, oui, notre Seigneur qui n'avait contracté aucun péché. Hein. Bon, nous naissons, nous disons qu'à la naissance, nous contractons par la naissance le péché originel. Notre Seigneur n'a contracté aucun péché, mais il a voulu tous les assumer pour nous en délivrer et les détruire. Oui. Ben, ma foi, méditons tout cela, méditez tout cela, hein. C'est trop beau tout cela, il y a qu'à se taire et puis essayer de comprendre un petit peu. Hein. C'est Saint Bernard, une belle page là-dessus, sur cette question-là, oui. Il commente un passage de l'Épître aux Hébreux au chapitre 2, verset 16. Ce n'est pas aux anges qu'il vient en aide, mais il vient en aide à la race d'Abraham. C'est pourquoi il a dû en toute chose être rendu semblable à ses frères, afin de devenir un pontife miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour expier les péchés du peuple. Car c'est par les souffrances et les tentations qu'il a lui-même subies qu'il peut secourir ceux qui sont tentés. Oui, il a voulu vraiment devenir un des nôtres. Hein. Ce qu'il y a de plus humain, y compris connaître le péché, comprenez ce que je veux dire, hein, connaître le dégoût du péché, connaître la punition du péché, pour être vraiment rendu semblable à nous dans tout ce qu'il y a d'humain, de manière à pouvoir vraiment compatir, oui, et secourir ceux qui sont tentés. C'est bien du Verbe de Dieu, dit Saint Bernard, que l'Écriture dit « Il n'a pas pris les anges », c'est-à-dire il n'a pas pris la nature angélique pour faire une seule personne avec lui, mais il a pris la race d'Abraham. Il a dû être assimilé à tout à ses frères, c'est-à-dire qu'il fallait, il était nécessaire que, semblable à nous et capable de souffrir, il parcourut tous nos genres de misère, hormis le péché. Bon, dans le sens qu'il n'a pas commis le péché lui-même, bien sûr, mais il en a connu la conséquence. Et si tu demandes quel besoin de cela, eh bien l'Écriture te répond « afin de devenir miséricordieux ». C'est précisément en effet parce que lui-même a souffert et a été tenté qu'il est puissant pour aider ceux qui sont eux aussi tentés. Je ne vois pas quel meilleur sens on pourrait donner à ces paroles, sinon qu'il a voulu souffrir et être tenté et communier à toutes les misères humaines, hormis le péché, ce qui est s'assimiler en tout à ses frères, afin d'apprendre par l'expérience même à avoir pitié et à compatir à ceux qui, comme lui, souffrent et sont tentés. Eh oui, comme dit saint Paul ailleurs dans l'Épître aux Hébreux, nous n'avons pas un grand pontife qui soit impuissant à compatir, et non. Il est au contraire très, très compatissant, puisqu'il a connu toutes nos misères, toutes nos souffrances. Et donc nous pouvons nous tourner vers lui avec confiance, justement chaque fois que nous sommes tentés, éprouvés, il nous comprend bien, puisque toutes les souffrances que nous avons à connaître, il est passé au travers avant nous. Donc il sait ce que c'est. Et il saura très bien nous aider à aller, eh bien, à passer nous aussi au travers, avec la même confiance, la même docilité, la même simplicité et dans la même paix. Hein. Bon, encore un petit mot, tout petit mot. C'est Pie XI, le pape Pie XI, pour achever quand même. Oui. C'est une consolation quand même, vous voyez, c'est dans son encyclique sur le Sacré-Cœur. Oui. C'est pour nous exciter un petit peu à la générosité. Hein. Parce que bien sûr, vous voyez, quand on considère cette agonie, cette passion, on peut se dire, oulala, mes misères, je suis un grand pécheur. Bon, c'est vrai, il faut se le dire, hein, je suis un grand pécheur, c'est vrai. Bon, je fais souffrir notre Seigneur, c'est vrai, etc. Bon, tout cela est bien déjà, mais il faut se dire aussi une autre chose. Oui. Voici ce que dit Pie XI, c'est très très court, mais ça ouvre tout un horizon, je crois aussi. Tout cela, les âmes pieuses ont d'autant plus de raison de le méditer que ce sont les péchés et les crimes des hommes commis en n'importe quel temps qui ont causé la mort du Fils de Dieu. Ces mêmes fautes, maintenant encore, causeraient la mort du Christ, entraîneraient les mêmes douleurs et les mêmes afflictions, puisque chacune d'elles, ainsi qu'on l'admet, est censée renouveler à sa manière la passion du Seigneur. Mais si, à cause de nos péchés futurs mais prévus, l'âme du Christ devint triste jusqu'à la mort, elle a, sans nul doute, recueillit quelque consolation prévue elle aussi de nos actes de réparation, alors qu'un ange venant du ciel lui apparut pour consoler son cœur accablé de dégoût et d'angoisse. Ah, c'est très beau ça, très consolant. Savoir que par nos efforts, nos pénitences, nos réparations, nos expiations volontaires, eh bien, nous avons tenu le rôle de l'ange de la consolation. Eh oui, parce qu'il l'a vu, ça, notre Seigneur. Il a vu nos péchés, bon, et tout cela a été pour lui cause de souffrance, de tristesse, mais il a vu également nos bonnes actions, il a vu nos générosités, il a vu nos efforts, etc. Et tout cela, ça a été pour lui une consolation immense, immense. Et voilà au moins quelqu'un pour qui ma souffrance n'est pas inutile, quelqu'un qui vient me tenir compagnie, quelqu'un qui m'aime, voilà, quelqu'un qui ne m'abandonne pas. Voilà, consolation pour notre Seigneur, c'est magnifique cela. Voilà, ben soyons des consolateurs.